L'électromagnétisme.
Parce qu'il y a plus de liberté dans le fait de ne pas se savoir libre que dans le fait de croire qu'on est.
This is rock and roll radio.
Alors que plus de 70 000 personnes assistaient à ce rassemblement, 200 jeunes gens, des gauchistes, ont conspué et lancé des pierres sur le premier secrétaire du Parti Socialiste.
L'électron libre.
Et toc, Brice, bonsoir camarades auditeurs et camarades auditrices. Bonsoir et bienvenue dans cette 11e édition de l'Électron Libre, l'émission culturelle de classe qui, dans le chaos ambiant, use sans ambiguïté de la critique sociale au travers de mots et de chansons, avec un certain éclectisme, peu de concessions et une légitimité de classe sans cesse renouvelée. Comme vous pouvez le voir, ça s'affiche en bas sur votre écran. L'électron libre, l'émission qu'on écoute dans les ramassages scolaires, au jardin, en faisant des confiottes, voire en ne faisant rien du tout. L'électron libre, c'est en direct ici et maintenant sur Radio Bartas. Aujourd'hui, rien de spécial. En fait, si, des bouquins, mais je viens juste de m'en rendre compte. D'accord, donc je disais, entre les cueillettes, les transfos, les marchés, la musique et tout le reste, j'ai pas vraiment eu le temps de préparer des dossiers. Du coup, je vais vous mettre un disque, le temps pour moi d'aller faire une course. La voiture est garée en bas, c'est cool. C'est le groupe The Brigades, habitué de l'électron libre, qui nous propose une balade au supermarché avec la chanson « Consommer et mourir ». Consume and die. Alors du coup, tiens, j'ai le texte sous les yeux. Je vais vous en lire un petit extrait. En observant les gens dans le centre commercial, je vois toutes les familles qui sont là. C'est si mignon. Ils portent tous leurs habits flambant neufs, car ils sont venus pour la nouvelle prière. Les mamans et les papas supplient à genoux d'avoir des émotions à bon marché et des produits chers. Ils sont fascinés par ce qu'ils ont bâti. Et les marchandises sont adorées comme des dieux. Consommer et mourir, c'est tout leur plan. Écoutez les flippeurs qui parlent. Tomberiez-vous amoureux d'une gazinière? Vous ne parlez pas, c'est tellement ennuyeux. Les robots japonais en disent beaucoup plus. Dans chaque sac, vous trouverez un rêve, alors que moi, j'ai juste besoin d'une aspirine. Travaille jusqu'à ce que tu meures, achète et meurs. Et je revois.
Consume and die, that's all they plan.
Parent born shopping center, all families and it's so cute. They all wear their brand new suits, call their ring for the new player. Emotion, dear products, mesmerized, of love they built. Commodities are worshipped by God.
Consume and die, that's all their plan. Consume and die, that's all their plan. Consume and die, that's all their plan. Consume and die, that's all their plan.
Aliens turn to the reaping balls. When you fall in love with a gas cooker, you don't speak on such a ball. Japanese robots say a lot more.
Bye.
winter, all families and it's so cute. They all wear their brand new suits, got their ring for the new prayer. Mums and dads begging on their knees for cheap emotion, dear products. Commodities are worshipped by God.
Consume and die. That's all their plan. Consume and die. That's all their plan. Consume and die. That's all their plan. Consume and die. That's all their plan.
I listen to the green pin balls. When you fall in love with a gas cooker, you don't speak on such a ball. Japanese robots say a lot more.
Le commandement des anciens despotismes était « tu ne dois pas ». Le commandement des totalitaires était « tu dois ». Notre commandement est « tu es, Charlie ». Aucun de ceux que nous amenons ici ne se dresse plus jamais contre nous. Entre les 7 et 9 janvier 2015, les attaques contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher ont fait 20 morts et des millions d'hébétés. Ce qui va marquer les jours qui suivent, c'est la sidération générale. Entretenue et amplifiée par des journalistes et autres experts médiatiques, exploitée par des politiciens d'autant plus prompts à jouer sur l'émotion populaire qu'ils se savent discrédités et méprisés. Cette sidération a considérablement accru la confusion des consciences en ces temps où rien n'est vrai et où tous les coups sont permis au grand jeu des manipulations. Si nombre d'informations se sont dégonflées aussi vite qu'elles se sont répandues, leur mise en spectacle anxiogène a permis de légitimer les mesures liberticides que l'État s'est empressé d'instaurer. Face au terrorisme, place au gouvernement de la peur. C'est en ce sens que l'on pourrait parler d'un 11 septembre français. La mise en scène cathartique de l'attentat contre le World Trade Center avait eu ici des conséquences bien moins extrêmes qu'aux États-Unis en matière de flicage de la société et de militarisation de l'espace public. Mais l'État français rattrape rapidement ce retard par l'entretien d'un état de guerre permanent et la désignation d'un ennemi intérieur, avec comme corollaire une exclusion ethnique et sociale aggravée. Par un rigoureux exercice de double pensée, tout droit sorti de 1984, les publicitaires de notre solide démocratie rempart contre la barbarie présentent effrontément des mesures inquisitoriales comme nécessaires à la défense de nos libertés et de nos valeurs. Concept toujours plus creux et illusoire. Cette compilation de réactions révélatrices apparues dans la presse ou sur Internet les jours d'après contribuera, nous l'espérons, à un salutaire retour à la raison dans ce pays qui, face aux obscurantismes, a éteint les lumières dont nos dirigeants se réclament. Mais nous ont-elles jamais éclairés ? Selon ce que je connais de l'histoire, je vois que l'humanité ne saurait se passer de boucs émissaires. Je crois qu'ils ont été de tout temps une institution indispensable. C'est l'introduction d'un livre qui vient de paraître aux éditions L'Insomniac et qui s'appelle « Janvier 2015, la France éteint les lumières ». C'est un florilège de réactions suite à l'attentat contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher. Donc « Janvier 2015, la France éteint les lumières, une épiphanie à l'envers ».
Les gens prennent tout, les temps sont sous ça, les francs, comme ça d'un coup. Ils ont besoin d'un petit chouchou, d'un mermidou, d'un grand bichou, d'un truc en plastique, en caoutchouc, une petite chose pour faire joujou, et qui flambe vite comme un
des Scooby-Doo, des porte-clés, des loups-garous, andalous, ou bien hindous, en zoulou, des pipiou-piou, ils s'amusent à Pousse-Caillou, au Tirsou, au Manitou, des porte-clés, des Scooby-Doo, font qu'ils en tombent à genoux.
Depuis des millénaires, suivant le principe du bouc émissaire qui cimente une communauté contre un ennemi commun, les sociétés ont trouvé ou ont su s'inventer un ennemi contre lequel se rassembler. Pour nous, les Occidentaux, et pour n'évoquer que la période contemporaine après la Seconde Guerre mondiale, l'ennemi a longtemps été le rouge, incarné par l'URSS. Le monde avait ainsi été grossièrement divisé en deux, suivant un axe est-ouest. Il était assez remarquable de constater que dès la chute du mur, le nouvel ennemi de l'Occident s'est cristallisé à une vitesse supersonique, celle d'un F-16 ou d'un missile, suivant un axe nord-sud exactement perpendiculaire. Désormais, l'ennemi se trouvait au sud, c'est-à-dire au Moyen-Orient, en Afrique, avec très vite des connotations ethniques et religieuses aussi intenses que simplificatrices. L'ennemi prenant tout autant les traits de l'arabe, du noir, du basané que du musulman. Les prémices de la fabrication de ce nouvel ennemi du genre humain dataient d'avant la fin de la guerre froide. Les suites de la révolution iranienne fixaient déjà un vocabulaire de diabolisation mutuelle qu'on n'a pas fini d'entendre. Du grand Satan à l'axe du mal, Saddam Hussein allait alors servir de pion dans le grand jeu américain qui se lança en 1980 à l'assaut de l'Iran. Puis, en 1990, moins d'un an après la chute du mur, Saddam Hussein envahissait le Koweït, offrant ainsi aux États-Unis le prétexte de la première guerre du Golfe. Une guerre en mondo-télévision, relayant une propagande planétaire qui relégua en un rien de temps les rouges au rang de souvenirs nostalgiques. 10 ans plus tard, le 11 septembre 2001, et surtout ses suites hallucinantes, l'empreinte que sa très efficace gestion a laissée sur le monde instituait solidement ce changement d'axe. Nous vivons depuis dans ce monde-là. Cette division artificielle et si orwellienne, les amis d'à peine hier devenant les ennemis d'aujourd'hui et vice-versa, existe autant au niveau international qu'au niveau national. Ainsi, en France, alors qu'à une époque précédente, l'État et son appareil de propagande diabolisaient l'ennemi en l'accusant d'être rouge ou gauchiste, anarchiste, etc., on a vu ce discours s'adapter à cette nouvelle donne. Cet ajustement d'avenir ne pouvait venir que de la gauche. Parti socialiste et parti communiste de concert qui pouvaient certes plus difficilement que la droite utiliser ces catégories comme repoussoir. Dès 1984, les grévistes de Talbot à Poissy avaient été dénigrés par le Premier ministre Mauroy qui les prétendait manipulés par les intégristes. Ce à quoi ces grévistes avaient répondu « Nous, intégristes, donnez-nous du whisky ». Dans les années qui suivirent, sous couvert de défense de la laïcité, gauche et droite confondues ont exploité à fond cette nouvelle grille de pseudo-analyse, de démonisation surtout.
un summum a été atteint lors de la vague d'émeutes de 2005. Désormais, ces mêmes protagonistes des mêmes lieux, les banlieues, les cités, qui exprimaient la même révolte que les générations précédentes, étaient traités d'intégristes, de salafistes, ou plus trivialement, de sales arabes, ou de sales nègres, dans les bistrots, la presse de caniveaux, ou sur des réseaux dits sociaux. La désignation du terroriste et de l'islamiste comme le nouvel ennemi relève d'abord de la propagande. C'est surtout une fiction à usage interne pour le camp occidental et ses états nationaux. Dans la réalité, les liens entre les classes dirigeantes de tous les continents sont étroits. Mondialisation du business oblige. Cette insinuation de la propagande à la méfiance de l'autre n'est destinée qu'à ceux d'en bas. Tandis que ces messieurs et dames de la haute, de toutes couleurs et de tout pays, façon Benetton, eux ne sont pas racistes ni sexistes ou savent le dissimuler, quoique pas toujours, sous leur vernis social. Multiplient les bénéfices en s'échangeant marchés, combines et pots de vin, tout en exploitant le labeur de leur peuple, ou même d'un autre. Celui-ci est incité à considérer l'étranger comme responsable de tous ses maux. Diviser pour mieux régner reste une règle première de toute domination. La guerre de tous contre tous renforce nos maîtres. Et du coup, on écoute les Redskins, Kick Over the Statues. Faites tomber les statues. En fait, c'est un appel à déboulonner les statues de Paris à Bagdad, passant par l'axe Moscou, Tel Aviv et Pékin.
Free.
Vous êtes toujours sur Radio Barthas, vous écoutez l'Électron Libre, spécial dédicace à tous ceux qui nous écoutent sur la route ou à la maison, tranquillou. Salut Loïc à Saint-Thé et Juan en Nouvelle-Zélande. Là, je m'en fous, ouais. Donc je vous avais promis un dossier chasse régulier et étant une personne de parole, je reviens donc sur ce loisir qui, tant qu'il n'aura pas été aboli ou radicalement transformé, n'aura de cesse de susciter discussions et débats bien souvent enflammés. Mes recherches m'ont conduit sur le site de la buvette des Alpages qui a travaillé pour nous et grâce à qui l'on peut consulter les chiffres des accidents de chasse depuis 1970. C'est une véritable litanie. C'est super long. Du coup, moi, j'ai sélectionné un court extrait. 2008-2009, 54% des accidents interviennent lors des battues au grand gibier et plus particulièrement au sanglier. Mauvaise manipulation de l'arme, 50% des cas. Et distance de tir inférieure à 10 mètres, 50% des cas, bref, etc., etc. 2009-2010, 60% des accidents, il y a eu 7 accidents mortels, 70 accidents moins médiatisés. En 2010-2011, on se rapproche, la buvette a recensé 139 accidents en 2010-2011, dont 34 accidents mortels. 11 crises cardiaques mortelles durant la chasse ne sont pas comptabilisées. Du coup, on passe facilement à une quarantaine, 45 accidents mortels sur la période la saison 2010-2011. En 2011-2012, 142 accidents, 89 blessés, 42 morts, dont 4 non-chasseurs. En fait, j'aurais dû commencer par ça, c'est trop rigolo.
Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de mortes fontaines, où vont
la morte saison, tous les chasseurs de la plaine,
c'est une révolution.
Car ce matin, un lapin a tué un chasseur.
Ouais, ouais, ça restera quand même un grand classique, hein, cette chanson. Hein. Là, Chantal Goya, elle avait pris des risques sur ce coup-là. On se demande d'ailleurs si c'est pas à cause de ça qu'ils ont tué Coluche. Hein. Ok, non, mais je déconne. Hein. Alors, du coup, on était en 2011-2012, 142 accidents, 89 blessés, recensés bien sûr, hein, 42 morts. Ce qui est quand même pas mal, d'accord. Des chutes. Alors bon, bien sûr, on nous explique que la chasse du grand gibier, un sanglier, cerf et chevreuil est à l'origine de 53% des accidents. Le petit gibier, 47%. Et sur ces trois dernières saisons, la chasse du sanglier représente 70% des accidents. 2012-2013, 57 morts. 2013-2014, on n'a pas les chiffres. Donc la dernière saison, ça a quand même fait 57 morts. En tout, en 20 ans, 20 saisons de chasse, on a eu 600 à 634 morts, selon les sources. Hein. Donc la fourchette, elle est de 34 morts. Bon, on n'est pas à 34 morts près, a priori. Hein. 30 à 32 morts par an en moyenne, sur 20 ans. Allez, je vous remets un petit coup de Chantal Goya, et puis après, on va passer à autre chose.
C'était un lapin qui avait un fusil. Ce matin, un lapin a tué un
Spéciale dédicace à Fiflo, Osweiss, La Chasse. L'automne n'est pas fini. Faites gaffe de ne pas prendre une balle au coin d'un bois. On continue avec la guerre en Syrie. Dans la série, ça ne s'arrête jamais. Le match continue et l'équipe de l'État islamique reprend l'avantage avec un Airbus plein abattu dans le désert d'Égypte. Et de l'hôpital afghan détruit par un bombardement US à la petite fille palestinienne shootée par un sniper israélien à la sortie de l'école, le crime de guerre est et restera impuni. Des tombes de Belzen où furent brûlés des innocents au massacre de Sabra et Shatila. Crime de guerre, le crime est toujours le même. Special AK. Après avoir déboulonné deux ou trois statues, Vérol s'en alla faire un tour du côté de ses amours. Il avait un rendez-vous. Et même si les mercenaires ont de grosses voix, comme sur ce morceau d'anthologie que dis-je, de bravoure, interprété par des tueurs professionnels, je vous offre un extrait d'un truc que vous n'auriez peut-être jamais eu l'idée d'écouter, peut-être même que vous en ignoriez l'existence. On s'arrêtera au premier refrain.
Avez-vous des nouvelles de Lantier?
Il est vivant.
C'est pas vrai. Formidable.
Il est vivant. Il est vivant.
C'est pas vrai.
Il est vivant.
C'est pas vrai.
Il est vivant.
Formidable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
C'était les cadavres Lantier sur la colline. Allez, je reviens au bouquin janvier 2015, La France éteint les lumières. À la page 8, je suis Charlie, nous sommes Charlie, tout est Charlie. Point d'interrogation. Dès ses premiers moments, la diffusion, comme traînée de poudre du « Je suis Charlie », a fait irrésistiblement penser au « Nous sommes tous américains » du journal Le Monde du 12 septembre 2001. Il n'a pas fallu une demi-journée pour que cette réminiscence se confirme. Et ces libérations qui s'est chargé de faire passer le mot d'ordre à la première personne du pluriel. Nous sommes tous Charlie. Bienvenue dans le monde de l'unanimité décrétée et malheur aux réfractaires. Ce slogan, imaginé par le graphiste Joachim Roncin juste après l'attentat, s'est développé comme un virus, au sens propre aussi sous la forme d'un malware sur Internet. Il va de pair avec le hashtag « Je suis Charlie » sur Twitter, utilisé 619 000 fois entre 11h et 20h le 7 janvier. C'est le hashtag le plus tweeté au monde en si peu de temps. Il est aussi décliné sous forme d'autocollants, pancartes, affiches, etc. et devient l'un des plus populaires de l'histoire du réseau social Twitter avec 5 044 740 tweets publiés durant les 3 jours d'attentat du 7 au 9 janvier 2015. Sur Internet, la société de conseil Coactive Team a indiqué avoir pris l'initiative de déposer l'adresse jesuischarlie.fr, excusez-moi, qu'elle a ensuite mis à disposition de Charlie Hebdo via son avocat. Le Nasdaq et Charlie. On aura vu des « Je suis Charlie » absolument partout, suivant le 7 janvier. Depuis les badges et pancartes portés par des individus anonymes ou célèbres jusqu'aux lieux les plus renommés, Paris et Charlie, projetés en lettres lumineuses sur le fronton de l'Arc de Triomphe les 9 et 10 janvier, tandis que le 8, la tour Eiffel était éteinte en signe de deuil. Ou « Nous sommes tous Charlie », inscrit en français et en arabe sur la façade de l'Institut du monde arabe. On a vu ce logo dans les lieux les plus communs, voire incongrus, jusque sur les tickets de caisse de la cantine du journal L'Équipe, sur les vitrines des commerces, des agences immobilières ou notariales, en graffiti dans les WC des bistrots, sur les panneaux lumineux d'information des villes et ceux des autoroutes. La société des autoroutes Paris-Normandie affiche dès le 8 janvier « Nous sommes Charlie », vite suivi par Vinci sur ses signalétiques autoroutières « Nous sommes tous Charlie ». La SNCF a fait de même sur les panneaux d'information de ses gares et de ses trains, initiative reprise dans les trains anglais et jusqu'à New York, à Times Square, sur la façade du Nasdaq. 2 jours après l'attentat, Charlie Hebdo est fait citoyen d'honneur de la ville de Paris, à l'unanimité du conseil de la ville réuni en conseil extraordinaire. Paris a remplacé l'intégralité des panneaux publicitaires situés sur l'itinéraire du cortège de la marche républicaine du 11 janvier 2015 par des affiches noires « Je suis Charlie ». D'autres villes ont repris cette initiative. Le lendemain de l'attentat, Jean-Pierre Talieu, maire de la Tremblade près de Royan, en Charente-Maritime, prend l'initiative de baptiser une place publique « Je suis Charlie ». Une plaque provisoire est inaugurée le 10 janvier, qui sera bientôt remplacé par une signalétique pérenne. Au lendemain de l'attaque, le Sénat adopte à l'unanimité l'amendement Charb. C'est le Parti communiste qui a remis au vote cet amendement, refusé en décembre 2014, visant à favoriser fiscalement, grâce à des réductions d'impôts, ceux qui investissent dans la presse. La Poste est Charlie. Elle a offert toute une année d'affranchissement au journal. Prénom Charlie. Pic d'attribution à Paris. 10 jours après les attentats, davantage de parents parisiens ont choisi Charlie en deuxième ou troisième prénom pour leurs enfants afin de rendre hommage à la liberté d'expression. Une vingtaine de petits Charlie ont été recensés dans toute la France depuis le 7 janvier. Et y a même une entreprise qui a fait des couches « Je suis Charlie » pour les gamins. Voilà, le problème, c'est l'encre noire. Ils n'ont pas trouvé la solution parce qu'en fait, l'encre noire des couches, je suis Charlie, parce que c'est quand même noir sur blanc pour que ça. Voilà, c'est le logo officiel, donc on ne va pas mettre du rose, du bleu, tout ça, c'est noir. Voilà, c'est du deuil. Donc, du coup, ils ont un problème parce qu'en fait, il y a le noir des couches culottes, je suis Charlie, qui déteint sur les petites fesses de bébé hyper fragiles. Et du coup, voilà, quoi. Les parents sont partagés quand même entre la quasi-obligation pathologique de rendre hommage et le côté pratique où merde quoi, quand même nettoyer, enlever toute cette encre sur les fesses de mon bébé quand même. Alors après, bon, ils sont en train de travailler sur une encre biodégradable qui pourrait être absorbée par les petits pores de la peau là, des bébés qui produisent une substance spéciale, etc., qui croisait avec une certaine encre, etc. Enfin bref, c'est de la science, c'est super compliqué. Mais on y arrivera. Les couches « Je suis Charlie » qui n'agressent pas les fesses des bébés, ça va, c'est pour bientôt. et c'est aussi touchant que durable. A contrario, il imagine également un pic des prénoms des terroristes. Eh oui, combien vont s'appeler Shérif, Amédi? Je suis Charlie, c'est affiché à la une de la quasi-totalité des journaux français, y compris L'Équipe ou Paris Turf. Et vous savez, le journal de Tiercé. Et des milliers de journaux du monde entier, ainsi qu'en ouverture des portails d'entrée de milliers de sites, internet ou intranet, celui de Mondial Assistance par exemple, ou sur les réseaux sociaux, déclinés ou détournés comme à l'habitude sous toutes les formes imaginables. D'innombrables comptes Twitter ont aussi modifié leur photo de profil en la remplaçant par le logo « Je suis Charlie » dont l'ambassade des États-Unis à Paris. La variante « Nous sommes tous Charlie » a été utilisée par la Société des journalistes français qui rassemble les rédactions des principaux médias nationaux français et de Reporters sans frontières. Pour le spécialiste de la presse Patrick Evenot, les millions d'exemplaires de Charlie Hebdo sont un record historique. Le 11 novembre 1918, le Petit Parisien a tiré à 2 millions d'exemplaires le jour de la mort de De Gaulle. France Soir a tiré à plus de 2 200 000 exemplaires. Le 8 janvier, la presse quotidienne nationale a vu ses ventes globales en kiosque bondir de 600 000 exemplaires pour un jour normal à 1 million, selon le syndicat de la presse quotidienne nationale. Libération a quintuplé ses ventes ce jour-là, tandis que les Échos et Le Monde ont vendu deux fois plus que d'habitude. Le Figaro, plus 135%, Le Parisien, aujourd'hui en France, plus 50%, Ouest France, plus 36%, et même le quotidien sportif L'Équipe, plus 34%, qui avait aussi rendu hommage à Charlie Hebdo avec une caricature géante à la une, ont connu une hausse de leur diffusion en kiosque, selon le syndicat national de la presse quotidienne. Ouest France, qui diffuse en moyenne à 725 000 exemplaires par jour, indique avoir vu ses ventes augmenter de plus de 15% au cours du week-end qui a suivi le dénouement sanglant des prises d'otages et 28% le lundi, etc., etc. Mais ça t'embellit dans une presse en crise pour n'être qu'un feu de paille selon des experts. Libération et Le Canard Enchaîné étaient en rupture de stock le 14 janvier et ont dû être réimprimés. Le Canard imprimant 1 million d'exemplaires, le double de son tirage actuel. Enfin, habituel, pardon. Outre la presse papier, nombre de médias audiovisuels ou sites d'actualité ont battu des records d'affluence, de BFM TV à Instagram en passant par Twitter ou Facebook. Cet effet Charlie a eu des conséquences sur la plupart des médias. iTélé a multiplié ses parts d'audience par 4, France 24 a augmenté son audience de 50%, et sa version arabophone doublant parfois sa version francophone et même parfois la chaîne Al Jazeera. Nice Matin va publier jeudi un hors-série de 40 pages intitulé « Pour Charlie » et reversera tous les bénéfices à Charlie Hebdo. Excusez-moi. Le numéro spécial sera vendu à part du quotidien avec un premier tirage de 50 000 exemplaires. Sur Wikipédia, la réaction a été incroyablement rapide. Le site Rue 89 note le 8 janvier qu'en moins de 24 heures, l'encyclopédie collaborative avait un article en français puis en 45 autres langues sur la fusillade à Charlie Hebdo. Le 10, on est à 56 langues. Google a placé une image « Je suis Charlie » sur sa page principale jusqu'au 11 janvier 2015 à 0h, après avoir utilisé un ruban noir en signe de deuil. La culture doit être aux avant-postes pour reconstruire la société. Laurence Esberg, directrice du Forum des images à Paris. Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, va débloquer 1 million d'euros afin d'assurer la pérennité de l'hebdomadaire. 1 million d'euros. En revanche, le ministère des Finances ne s'appelle pas La Poste ni Charlie. Le fisc prendra sa part sur les ventes du numéro des survivants. Selon Richard Malka, l'avocat du journal, ses ventes ont généré entre 10 et 12 millions de marge, mais cette somme pourrait être réduite à 7 ou 8 millions après impôt sur les sociétés.
En tout cas, moi, demain, j'achète Charlie Hebdo,
s'exclame une demoiselle accoudée au bar du Mistral. L'épisode de Plus belle la vie, diffusé le soir du 13 janvier sur France 3, s'ouvre sur cette scène d'une minute tournée dans la foulée des attaques de la semaine dernière. Le temps d'une discussion de comptoir, les personnages se font l'écho de l'émoi national post-attentat. Des autocollants « Je suis Charlie » sont disposés bien en évidence dans les différents plans de la séquence.
C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence. Ceux qui balancent sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est leur. Eh bien, ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale.
Aïe, nous voilà une fois encore coincés le dos au mur. Obligés de subir et pour combien de temps rien n'est sûr. L'offensive laïque, la Bible et le Coran se confirment en alibi de la fureur du temps présent. Et que nous reste-t-il sinon le choix évident, déprimant, de radier les mots du président. Se battre ou se soumettre, adhérer ou comparaître pour des luttes d'opinion. Ne nie pas le réel, nous vivons une période propice à notre disparition. Se trouve le programme, mon frère, qui a pour aujourd'hui les peurs consensuelles, la terreur, le djihad. Le djihad. Ami, entends-tu à la radio la rumeur qui s'affole ? monde de rock'n'roll. Sa tweet sévère au fond des ministères, la liberté qui crame, est-ce un coup du Mossad? Du coup dans les rues de ces villes du monde, l'air pour le coup devient chaud, les habitants Mossad. Pour vivre, mieux vaut se cacher, mieux vaut fermer sa gueule. Mis en joue, les suspects sont de plus en plus seuls. Et l'autocenseur se fait régulateur pour éviter à tout prix les mauvaises pensées et de faire malgré lui l'apologie du mal, le risque étant juste de se prendre une balle. Qui a peur, on nie les dissidents et malheur à celui qui se dissocie de l'union nationale. Qui est le bien, qui est le mal? En gros, surveille tes propos, modère tes élans et ravale tes mots. Ami, entends-tu à la radio la rumeur qui s'affole? Ce doux parfum de valerie rampante sur fond de rock'n'roll. Penses-tu quel est ton point de ralliement? Tu dois choisir un dieu, citoyen, tu dois choisir un camp. Et peu importe tes peines, tu adhères sans haine, et cela même si certains aspects ont le parfum de la gêne. Oubliez les vrais problèmes, le monothéisme s'impose comme idéal, et la guerre de classe est mêlée au gravat sous les exécrable, mais ils sont les piliers du normal. La religion obligée de l'état paternel qui, à l'heure de la messe républicaine, te pardonne tes doutes, tes soucis et te laisse nettoyer les coulisses de l'arène. Puisque sans hésiter, le peuple lui laisse les rênes, le capot de la police milice républicaine. Fiche traque, matraque, mitraille les opposants mécréants qui nieraient le réel. Qui osera encore s'insurger, dénier, réfuter le bonheur, le bien-être et la paix universelle? Que nous vendent les chefs de guerre et leur valet journaliste fantassin de la guerre éternelle? Ici, je le répète, à quoi bon nier le réel? Ami, entends-tu à la radio la rumeur qui s'affole? Ce doux parfum de valerie rampante sur fond de rock'n'roll. Ami, entends-tu?
BD. Rendez-vous annuel de la BD mondiale, le 42e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, dont Volinsky était le Grand Prix 2005, se tient sous haute surveillance policière du 29 janvier au 1er février. Les milliers de visiteurs qui s'y pressaient dès jeudi matin ont dû se plier à des contrôles de sécurité exceptionnels, qui ont provoqué de longues files d'attente, notamment autour de la dessinatrice Catherine Meurice, collaboratrice de Charlie et rescapée de l'attentat. Les responsables souhaitent mettre en place une exposition des dessins de Charlie Hebdo et créer un prix Charlie de la liberté d'expression. Centré autour du dessin de presse qui, pour sa première édition, ira au dessinateur disparu de Charlie. Un grand prix spécial a été décerné à Charlie Hebdo. Il y avait des mugs Charlie Hebdo, des badges Charlie Hebdo. Je crois qu'ils ont même fait des petits crayons Charlie Hebdo quand vous écrivez en fait... dans toutes les, comment on appelle ça, dans le fil de votre écriture, je sais pas, vous écrivez par exemple merde, ah ben dans le M de merde, c'est, il y a écrit je suis Charlie sur tout le long, mais bon, faut une loupe pour le voir, mais ça vaut quand même, enfin voilà, c'est quand même intéressant quoi, fallait le faire. L'hôtel de ville a été décoré à Angoulême, toujours au festival de la BD, a été décoré d'une grande banderole en mémoire de Charlie et une quarantaine de ses unes représentatives de l'esprit Charlie sont placardées dans les rues. Je suis Charlie, ce n'est pas faire sonner les cloches de Notre-Dame, ni transformer en héros nationaux ceux qui chiaient sur le pouvoir sous toutes ses formes, a déclaré l'éditeur de BD Jean-Christophe Menu. Ouais, c'est bon, on s'en rappelle de lui, il était vachement un petit peu énervé et tout. Parce que ouais, Jean-Christophe Menu était venu recevoir son prix au nom du journal dont l'équipe des survivants n'a pas souhaité venir. Toujours au nom de Charlie Hebdo, il n'a pas hésité à lancer un mot d'insulte au maire d'Angoulême, présent devant lui, pour avoir entouré de grillages les bancs publics de la ville afin d'en écarter les SDF. Ouais, mais écoute, hein, on peut être Charlie et en même temps ne pas aimer les SDF. Ça existe. Alors à Pierre Jean, bien sûr, qui nous écoute à Toulouse et à Rouen, en Nouvelle-Zélande, un morceau de garage rock des regrettés modestes lovers de Toulouse. Ça s'appelle le Chant des Pègres.
Envoyez la musique.
J'espère que c'est la bonne vitesse, normalement oui.
Un certain soir, j'étais dans la débine. Un coup de fade, il nous fallut donner pour travailler. Mis au point ma combine et mes outils, j'allais les décrocher. Juste en passant, le portier nous escrache. J'étais fourgué, mais la vie cachait tout. Le jardinant, j'ai frisé ma moustache. Quand on est bête, on peut passer partout. En deux temps, je remonte et je débride. Mes trois poteaux se mettent au turbin. Chez un banquier, la caisse n'est jamais vide. Suffit de savoir où dorment les talbins. Ta condition est défilée d'avance. Le rigolo fit bientôt casser tout. Du quel plaisir, on avait l'espérance. Quand on est père, on peut voler partout. Le coffre fort fut mis dans la roulante. Par toute l'escorte, il fut bien entouré. J'ai père Clément, on lui a ouvert le ventre. Dorette Fafio, l'enfant était gavé. 40 billets, telle était cette aubaine. Allez, ça marche, que ce fut un fier coup. De les manger, on n'était pas sans peine. Quand on est bête, on peut se payer de tout. Après, mes pauvres camarades, rentrant chez eux, par l'arnaque furent pincés. Je revenais de faire une rigolade, 3 contre 10, comment pouvoir lutter? Mes compagnons de la haute fraternelle, ils furent vaincus, mais n'avoir rien du tout. À mes patrons, à vous, gloire éternelle, car pour les mecs, le devoir avant tout. Chers amis, j'ai fini leur histoire. À la nouvelle, tous trois ils partiront. Oui, bientôt, sous peu j'en ai l'espoir. Disant leur fer, vers nous ils reviendront. Portant pas mort à toute la police. C'est l'âge bandit, sans pitié plein de tout. On les pauvre, où ce sera justice. Car pour les pègres, la vengeance en tout. Et donc,
fausse aventure.
Et c'est vrai qu'à tête reposée, enfin je veux dire après avec du recul, on peut parler très facilement et de manière, je veux dire sans concession, de ce petit passage de notre histoire. Ok, c'est pas fini parce qu'on va bientôt assister à la première, au premier anniversaire. Donc préparez vos t-shirts. Alors, abonnez-vous. Le député maire UMP du Touquet, Daniel Fasquel, lance un appel. J'ai constaté que la bibliothèque médiathèque du Touquet Paris-Plage ne recevait pas Charlie Hebdo. J'ai aussitôt abonné ma mairie et j'appelle tous les maires de France à faire de même. Ce journal est devenu l'emblème de la liberté d'expression. Jean-Luc Mélenchon, un autre style de crevard, a qualifié sur RTL d'acte civique l'achat de l'hebdomadaire. Non, l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, l'hebdomadaire, l'hebdomadaire. Ah, c'est, il y a dromadaire presque dans hebdomadaire, c'est marrant. Nous avons dépassé les 200 000 abonnés, a annoncé mardi Eric Porto, co-gérant de Charlie. Pour l'historien des médias Patrick Evenot, ce ne sera pas simple de garder ces abonnés-là qui sont venus pour exprimer leur solidarité et leur croyance dans la liberté d'expression. Mais ils ne repartiront pas tous rapidement. Il y en a qui vont découvrir le journal et s'y acclimater. Rué sur le dernier numéro. Certains primos acheteurs du numéro paru ce 14 janvier provisoirement en rupture de stock se font déjà plaisir sur eBay en proposant un exemplaire pour des tarifs atteignant régulièrement la centaine d'euros. Quelqu'un a carrément tenté une mise de départ à 50 000 euros, livraison gratuite, avant de baisser son prix à 10 000 balles. Sans succès pour l'instant. Sur Twitter, on signale également des cas de personnes revendant tout simplement le journal pour 30 euros à quelques mètres du kiosque où ils l'ont acheté. Sur eBay, les prix varient dans une fourchette très large puisque la version en PDF est proposée à 3,90€. J'ai un message, je répondrai après. Tandis qu'un autre proposait la version papier à 100 000 euros. Le numéro de Charlie, daté du 7 janvier 2015, avait lui aussi fait l'objet d'un véritable business sur eBay. Certaines enchères avaient ainsi dépassé les 10 000 euros, etc., 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 etc. Ad nauseam. Ok. Ensuite, assaut sur les kiosques. Gare Saint-Lazare, le gérant d'un kiosque assure « J'en avais 350. C'est parti en un quart d'heure. Dès 6h15, c'était la cohue. » Un type a essayé de doubler. Certains ont failli en venir en main. C'est bien pour Charlie, pour qu'il reste libre. Mais c'est hypocrite. Avant, je vendais 3 exemplaires par semaine. Beaucoup ne savent même pas à quoi ressemble ce journal. Au 25 janvier, avec plus de 7 millions d'exemplaires vendus à 3 euros pièce, le revenu serait de plus de 10 millions d'euros. D'accord. À cela s'ajoutent 2 millions d'euros de dons recueillis grâce à l'appel lancé après l'attentat. Un don de 250 000 euros du fonds Google Éditeur pour l'innovation numérique de la presse et 132 000 euros du quotidien britannique The Guardian. Une aide à la pérennisation de 1 million d'euros du ministère de la Culture. Ces nouvelles recettes sont sans précédent. 70 euros l'abonnement, le journal devrait recueillir environ 14 millions d'euros. Blablabli, blablabla. Allez, allez, de la thune et de la thune et de la thune. Incroyable, incroyable. Que faire de cet argent reçu? Voilà, on sait que c'est un gros débat, machin, tout ça. D'ailleurs, c'est le clash, etc., etc. La Redoute fait des t-shirts. Moins d'une semaine après le drame, plus de 50 demandes de dépôt de la marque Je suis Charlie avaient déjà été enregistrées et plus de 120 ensuite auprès de l'Institut National de la Propriété. Mardi, l'Institut a annoncé sa décision de ne pas enregistrer les demandes de marque car elles ne répondent pas aux critères de caractère distinctif. Ce slogan ne peut être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité. Blablabla. Parmi les nombreuses tentatives de récupération commerciale de l'attentat, la création d'adresses de sites internet aussitôt remises en vente, créée le jour même de l'attaque contre l'hebdomadaire satirique, l'adresse charliehebdomassacre.com est déjà revendue au plus offrant. À revendre, comme d'autres coquilles vides telles que charliehebdoshooting.com, tandis que je suis charlie.com est mise à prix 349 euros sur la plateforme d'échange de noms de domaine groupe allemand Zelo. La 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 la, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Allez, je vous envoie un petit peu de musique là, on va écouter par exemple au hasard N-Brigade, Commissariat Blues, une grenade entre les mains. Je chante le Commissariat Blues. tu jongles avec ton destin au son du Commissariat Blues.
C'est très sérieux. Il va falloir se battre. C'est la guerre à mort. Eux l'ont déclenchée. Mais nous, je vous jure que nous la finirons. Même si pour ça, on doit faire des heures supplémentaires, autant qu'il en faudra, même le dimanche, éventuellement. Mais rappelez-vous mes paroles, on va tous à la chasse au punk. Et ça, dès cette seconde. Allez, on y va.
C'était l'affaire Habib Grimsi, affaire criminelle au cours de laquelle, le 14 novembre 1983, Habib Grimsi est assassiné par défenestration dans le train Bordeaux 26000.
Voilà, c'était Nuclear Device, extrait du CD qu'on peut trouver avec la, enfin, dans le livre qui retrace leur histoire, donc de 1982 à 1989. Voilà, c'était l'Électron Libre. Je vous remercie d'avoir écouté l'émission. Prochain rendez-vous dans 3 lundis. En attendant, vous pouvez toujours podcaster, c'est-à-dire écouter sur Internet. Je balance le générique et je vous souhaite une bonne fin de soirée et plein de trucs.
Alors que plus de 70 000 personnes assistaient à ce rassemblement, 200 jeunes gens, des gauchistes, ont construit et lancé des pierres sur le premier secrétaire du Parti Socialiste.
L'électron libre.